Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. Excellente fin de matinée ensemble sur Radion. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous proposer un entretien que j'ai enregistré le 23 novembre dernier au Grand Hôtel de la Cloche à Dijon avec un des éditorialistes les plus lus et écoutés des Français, peut-être aussi un des éditorialistes les plus craints des hommes politiques. Je veux parler d'Alain Duhamel de l'Institut qui signe aux éditions de l'Observatoire, journal d'un observateur. C'est donc avec lui que nous allons passer cette heure à bord de Wagon Livre. Alain Duhamel est aujourd'hui éditorialiste à RTL, il est chroniqueur, on peut d'ailleurs entendre ses analyses politiques sur LCI ou le lire dans le journal Libération ou les dernières nouvelles d'Alsace. Il est membre de l'Institut et il est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages dont notamment une histoire personnelle de la Ve République et les pathologies politiques françaises. Journal d'un observateur, c'est le titre de son dernier essai, Alain Duhamel. On marque une première pause musicale et nous nous retrouvons juste après avec notre invité. Très bonne fin de matinée sur Radion. Je rappelle, c'est Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi.
Too long in the field.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Alain Duhamel, bonjour.
Bonjour.
Alain Duhamel, est-ce qu'on doit vous présenter ? Je crois que nos auditrices et auditeurs vous connaissent. Vous êtes membre de l'Institut, éditorialiste actuellement à RTL et chroniqueur régulier sur différents médias, LCI, dans la presse écrite, Libération et les dernières nouvelles d'Alsace. Vous êtes l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages dont je ne vais pas citer tous les titres. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est votre... C'est un témoignage écoutez, journal d'un observateur.
Écoutez, c'est un journal que j'ai écrit à partir de notes que j'avais et que j'ai d'ailleurs détruites quand j'ai eu fini d'écrire ce journal.
Alors, Alain Duhamel, vous êtes né en 1940, 31 mai très précisément. Vous dites d'ailleurs que vous êtes né sous le signe d'une histoire tragique. Il y a une information que j'ai retenue parmi beaucoup d'autres dans ce que vous écrivez. C'est que vous expliquez que la France des années 30, vous n'êtes pas un homme des années 30, hein, vous êtes arrivé effectivement dans une phase tragique de notre pays, le plus grand désastre militaire, mais vous écrivez la France des années 30 enfante la France d'aujourd'hui. Et comme aujourd'hui nous sommes à la veille d'un week-end qui s'annonce très agité, est-ce que cette information prend tout son sens au regard des événements que nous traversons actuellement ?
Bah écoutez, il ne faut pas identifier les deux périodes, mais en tout cas on peut les rapprocher. On peut les rapprocher parce qu'elles ont l'une et l'autre comme fond des difficultés économiques persistantes et surtout avec une sortie de crise opaque. C'est-à-dire, en clair, on ne sait pas très bien où on va. Que là-dessus, il y a une instabilité internationale croissante, notamment, pas seulement en Europe, bien entendu, mais notamment en Europe, avec en Europe de nouveau, de façon évidente, la montée de nationalisme, et de nationalisme, les nationalismes sont toujours contradictoires. Hein, on est nationaliste contre les autres pays, on n'est pas nationaliste pour soi. On est patriote pour soi et nationaliste contre les autres. Et que cela déclenche à la fois de l'anxiété dans les catégories populaires, de l'incompréhension, de l'illisibilité de la situation, ce qui est très mauvais, parce que quand les gens ont l'impression qu'ils ne savent pas exactement où on est, où on va... C'est dans ces cas-là qu'il peut y avoir des phénomènes psychologiques dangereux, avec des fièvres, des emballements, des incompréhensions, voire des violences. Et on voit au milieu de ça, ce week-end, avec notamment donc la marche des Gilets jaunes vers Paris, qui rappelle évidemment, parce que c'est un mouvement dont les racines sont spontanées, nées de la crise. Mais spontané, ce n'est pas une organisation préexistante. Il n'y a pas de parti ou de syndicat qui encadre. Et donc ça ressemble quand même assez à des mouvements qui existaient comme ça dans les années 30. Et dont certains se sont comportés très bien finalement et d'autres beaucoup moins bien.
Notamment un certain 6 février 1934.
Voilà.
Quand on voulait fesser les députés, d'une certaine manière.
Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, c'est pas la seule, mais c'est une des raisons pour lesquelles le gouvernement n'a pas voulu que ça se passe, que la manifestation se passe place de la Concorde, puisque on se rappelle que c'était place de la Concorde, le 6 février 1934, qui avait eu de nombreux morts, des charges de cavalerie de la garde mobile à cheval à l'époque, des centaines de blessés et une situation quasi insurrectionnel. Bon, il vaut mieux ne pas essayer de mimer ce genre de circonstances.
En revanche, en 1968, vous êtes un jeune homme, vous avez connu là aussi une France très agitée, en tout cas un Paris très agité.
Ah bah oui, surtout quand on habite un quartier qui est à côté du Luxembourg et où qui était vraiment un des cœurs de la révolte étudiante. Et donc on a vu pratiquement en bas de chez nous, enfin un carrefour qui était à 50 mètres. Qui a été un des plus durs. On a vu des nuits entières d'affrontements, des barrières, des barricades, des charges de la police qui étaient autrement violentes qu'aujourd'hui. Hein, quand on revoit toutes les images de cette époque, on s'en rend bien compte. Et des étudiants qu'il faut dire n'étaient pas des anges non plus. Et dont la grande occupation consistait à déceler les pavés pour les envoyer sur les CRS, sur les gardes mobiles. Il y a eu quand même énormément de blessés, c'est un miracle qu'il n'y ait pas eu davantage.
En tout cas, en 68, vous dites certes que c'est une année clé pour la France, mais vous ajoutez que sur un plan personnel, par rapport au journaliste politique que vous êtes en train de devenir, que ça a été un apprentissage accéléré un peu de la vie politique et un certain regard sur ce qu'est la société française.
C'est-à-dire que oui, ça a été à la fois une mise en cause et une métamorphose de la société française qui s'est esquissée tout de suite. On ne l'a pas mesurée sur le champ, bien entendu, mais on a compris après coup que c'était là que tout s'était déclenché, qui est un fait de société majeur, puisque c'est en réalité le moment, à travers la révolte étudiante, beaucoup plus qu'à travers le mouvement social d'ailleurs, mais d'abord à travers la révolte étudiante, c'est le mouvement où l'individualisme prend le dessus sur les autorités traditionnelles. Donc dans l'histoire de la société, c'est un de ces très grands tournants qui existent, comme celui qu'on vit en ce moment, hein, sur le plan, non seulement sur le plan social et politique, mais même sur le plan sociétal et presque anthropologique. On voit qu'on est dans une société qui se métamorphose très rapidement en ce moment. On l'a vu, le mariage pour tous, bientôt la PMA, etc. Enfin, on est dans une période de métamorphose. Et ça rappelle effectivement 68, qui était une autre période de métamorphose. Et puis pour moi, ça a été... c'était pas mes débuts dans le journalisme, parce que j'avais déjà fait à l'occasion de l'élection présidentielle de 65 un certain travail, par exemple. Mais d'une part, j'ai eu la chance de vivre cette période-là largement aux côtés de Pierre Mendès France, qui en était un des grands acteurs. Et immédiatement après, d'être sollicité de faire un livre d'entretien avec Raymond Aron, qui a été le premier grand critique. Autrement dit, j'ai passé mes 68, d'une part, avec celui qui en a été un des grands acteurs, parce que beaucoup d'étudiants et même beaucoup de salariés espéraient que l'issue de mai 68 serait la victoire d'une gauche dirigée par Pierre Mendès France. Et à la sortie, le premier grand essai critique que j'avais appelé « La révolution introuvable », et qui d'ailleurs a fait beaucoup parler... essentiellement grâce à Raymond Aron, il faut bien le dire, plus qu'à moi, mais enfin, qui a été un des phénomènes. Et puis l'autre dimension, c'est qu'à cette occasion, j'ai pu pour la première fois mesurer exactement comment je me comportais, moi, devant un événement historique et avec un rôle professionnel à jouer. J'avais déjà connu un événement historique que j'avais vécu de près parce qu'il m'avait énormément impressionné, qui était le discours du 4 septembre 58 du général de Gaulle expliquant ce qu'allaient être les institutions de la Nouvelle République. J'étais place de la République pour l'écouter. Ça m'avait marqué, mais j'étais un spectateur, un témoin, rien de plus. En revanche, en 68... j'avais des articles à écrire, j'avais des positions à prendre, et j'avais un comportement à adopter. J'ai énormément de gens, surtout de mon âge, et surtout journalistes ou intellectuels, qui ont mué en militant déchaîné dans un sens ou dans un autre, en faveur d'un groupe ou d'un autre, en tout cas qui ont pris parti, qui se sont mobilisés, enflammés, et qui se sont comportés en militant, voire en chef de file. Moi, j'ai bien compris à cette occasion, c'était pas un calcul, c'était une réaction naturelle, que ce qui m'intéressait, ça n'était pas d'agir, c'était de comprendre. Et ça n'était pas de militer, c'était d'expliquer aux autres. Et donc, c'est une chose que je ne savais pas sur moi-même avant et que j'ai découvert à cette occasion-là.
En lisant « Journal d'un observateur », donc disponible en librairie aux éditions de l'Observatoire, alors j'ai appris que vous étiez énormément intéressé, ça je l'ignorais, à l'histoire du Parti communiste français.
Ah ben oui, je suis même passé pendant quelques années comme un des 3 ou 4 spécialistes français du Parti communiste. À l'époque, le Parti communiste, ça il faut le dire pour les moins de 40 ans, le Parti communiste à l'époque était encore une grande puissance. Hein. C'était presque le quart de l'électorat, c'était des liens organiques avec la CGT qui à l'époque était beaucoup plus puissante qu'aujourd'hui et représentait à elle seule la grande majorité des syndicats. Et donc c'était la question des objectifs, de la puissance, de l'organisation, de la culture, du mode d'existence du Parti communiste, c'était quelque chose d'absolument essentiel à cette époque. Et j'ai écrit avec Jacques Fauvé, qui était le rédacteur en chef politique du Monde, une histoire du Parti communiste en 2 tomes. Bon, donc on a appelé, enfin c'est pas nous qui l'avons appelé comme ça, mais c'est nos critiques, la première grande histoire bourgeoise du Parti communiste français. Mais effectivement, à cette occasion, d'abord j'ai fait la connaissance des dirigeants du Parti communiste, et puis j'ai appris son histoire et j'ai écrit plusieurs chapitres de son histoire.
Vous êtes bien à l'écoute de Radion avec notre invité aujourd'hui, Alain Duhamel, éditorialiste politique, membre de l'Institut. Il signe aux éditions de l'Observatoire, Journal d'un observateur, et nous sommes avec lui jusqu'à midi. On marque une nouvelle virgule musicale et on se retrouve avec notre invité juste après.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Il signe Journal d'un observateur, c'est son dernier ouvrage. C'est l'éditorialiste Alain Duhamel qui est aujourd'hui sur les banquettes de votre émission littéraire, sur les banquettes de Wagon Livre sur votre radio locale. Alain Duhamel, en lisant votre parcours, vous expliquez votre formation universitaire, journalistique et intellectuelle. On se rend compte combien les livres jouent un rôle important dans votre vie, dans votre plaisir, dans vos bonheurs. Lire, c'est une activité fondamentale, voire vitale pour vous.
De toute façon, lire a toujours été ma passion. C'est ma passion depuis que je sais lire. J'ai appris à lire seul et je n'ai jamais cessé de lire. Et dès que je n'arrive pas à lire suffisamment dans une journée, je suis aussi malheureux que si je n'avais rien bu et rien mangé. Pour moi, ça fait partie des fonctions naturelles de mon organisme. Et il s'est trouvé donc que j'ai énormément lu, autant qu'on pouvait le faire à cet âge. Et puis il se trouve que j'ai eu un accident qui m'a immobilisé pendant 2 ans et où ma seule occupation possible était de lire. Et où je lisais deux livres par jour pendant 2 ans. Donc si vous faites le total, ça en fait quand même pas mal. J'ai calculé que j'ai lu en réalité pendant cette période plus de 2000 livres. Et je me suis fabriqué ma culture à ce moment-là. Là, j'avais... entre 16 et 18 ans, c'est là où j'ai lu tous les grands textes littéraires et historiques. Et en fait, ce qui me passionnait quand j'avais entre 10 ans et 10 ans et 18 ans, c'était l'histoire. Et j'envisageais de présenter la rue d'Ulm et puis de faire une agrégation d'histoire et puis de devenir universitaire. Bon, comme j'ai eu cet accident, ça c'est une hypothèse qui s'est refermée. Mais comme je me passionnais en même temps pour la politique, ben finalement, ça m'a mené tout droit au journalisme politique.
Alors, cette passion pour la lecture et pour la littérature, je vous cite Alain Duhamel, c'est page 72. Parmi les présidents, les deux écrivains les plus marquants auront été Charles de Gaulle et François Mitterrand, qui sont effectivement des grands lecteurs et aussi des grands écrivains.
Ce sont des auteurs en tout cas importants.
On ne peut pas en dire autant de ceux qui leur ont succédé.
Eux sont de grands auteurs. Les mémoires de guerre du général de Gaulle, bon, c'est mémoires d'espoir aussi, mais à un moindre degré, à mon avis. Mais ces mémoires de guerre, ce sont des très grands textes. Alors, On aime ou on n'aime pas son style, qui est très particulier, mais enfin, c'est un style très personnel. Et ce sont des œuvres très ambitieuses. Vous savez que Churchill, qui avait été à la fois le grand allié et très souvent aussi l'adversaire du général de Gaulle pendant la guerre.
Et prix Nobel de littérature.
C'est ce que j'allais vous dire. Il a été ensuite, plus tard, prix Nobel de littérature, essentiellement à cause de ses mémoires de guerre. Essentiellement. Mais il a publié, lui, des dizaines, il a dû publier une cinquantaine de livres dans sa vie. Mais enfin, ce qui compte, ce sont ses mémoires. Parce que l'histoire du duc de Marlborough, son ancêtre, ça ne lui aurait pas valu le prix Nobel. Mais donc, il l'a obtenu, le général de Gaulle, on ne lui a pas donné le prix Nobel, mais il est parmi les écrivains marquants de son époque. Alors, dans un genre complètement différent, parce que le général de Gaulle, c'était du style du XVIIe siècle. François Mitterrand, c'était au contraire à partir de chroniques littéraires extrêmement travaillées, très subtiles, très complexes. C'était aussi un vrai écrivain. D'ailleurs, on l'a vu non seulement à cause des livres qu'il a publiés, qui sont de niveau variable, hein. Il y en a des très bons, il y en a des moins bons, mais aussi les chroniques hebdomadaires qu'il a écrites pendant longtemps, qui étaient alors des bijoux de littérature régionaliste. C'était le Charentais qui écrivait, et avec une volupté, mais aussi avec une difficulté extrême, comme le général de Gaulle. Hein. Le général de Gaulle écrivait remarquablement bien, mais remarquablement difficilement. Et François Mitterrand, avec un style complètement différent, écrivait merveilleusement bien, mais en suant sang et eau pendant des heures et des heures. Et moi, j'ai fait également un livre d'entretien avec lui. Ses réponses étaient retravaillées 10 fois. Je me moquais un peu de lui à ce moment-là en lui demandant s'il cherchait à imiter Proust avec le nombre de ses relectures, de ses rappels, de ses repentirs en marge. Il a été jusqu'à corriger les épreuves de ses livres chez l'imprimeur. C'est-à-dire qu'une fois que le manuscrit était totalement rendu, corrigé, les épreuves, les premières épreuves, les deuxièmes épreuves, ça lui suffisait pas. Il fallait qu'il aille sur le marbre, pratiquement comme on pouvait faire à l'époque. Donc oui, ce sont deux écrivains vraiment marquants, enfin intéressants, très différents, même à l'opposé, mais c'est intéressant aussi parce qu'ils sont très représentatifs des deux France. Hein. Les autres, il y a eu des livres, je veux dire, Valéry Giscard d'Estaing a publié des livres, des essais politiques qui se sont vendus par des centaines de milliers d'exemplaires. Hein. Mais ça n'est pas un écrivain du niveau du général de Gaulle ou de François Mitterrand. Georges Pompidou était un littéraire, mais il a publié 2 livres, plus une anthologie de la poésie. Bon, son anthologie est honorable, mais enfin, elle ne vaut pas celle de Gide. Et ces 2 livres sont des livres, des essais politiques, qui sont intéressants, mais au bout du compte moins bons que sur le même sujet ceux d'Edouard Balladur. Par la suite, Jacques Chirac a publié des mémoires, etc., et des livres politiques, mais comme ça n'est pas lui qui les écrivait, son mérite d'écrivain est donc limité. Nicolas Sarkozy écrivait vraiment lui-même ses livres, d'ailleurs ça se sent au style, disons au style qui est assez souvent parlé, mais sont des livres intéressants et sont des livres qui politiquement ont du sens à un moment donné. Mais ça n'est pas ce que j'appellerais un écrivain. D'ailleurs, il ne prétend pas l'être. J'en dirais pas autant de Valéry Giscard d'Estaing, qui lui le prétend davantage. C'est pas simplement parce qu'il est à l'Académie française. Mais en tout cas, il a voulu y être. Les successeurs aussi publient. Alors ça, c'est une des spécialités. François Hollande, Emmanuel Macron, c'est une spécialité française. En France, on est un homme d'État que si on a publié des livres et que si on a soit une ambition d'être un écrivain, c'est arrivé très souvent, soit la prétention d'être un écrivain. Mais les présidents français sont des gens qui ont publié des livres. Si vous ne publiez pas des livres, vous n'êtes pas un président français.
Et un précurseur quand même à travers Valéry Giscard d'Estaing qui a publié un livre alors qu'il était président de la République en fonction.
Valéry Giscard d'Estaing, le premier à avoir publié un livre alors qu'il était président. Et en plus, c'est un livre qui a eu un grand succès. Mais c'est à cette époque-là, ce qui m'avait frappé, ce que j'ai souvent vérifié depuis jusqu'à l'année dernière, c'est qu'un livre politique d'un homme d'État peut avoir, et en général a, un succès de librairie considérable, mais aucun impact politique spécifique ensuite. Autrement dit, en France, ça fait partie, si j'ose dire, des politesses de la démocratie que le président ait publié des livres, mais s'il espère en tirer un bénéfice politique, il se trompe.
Si vous le voulez bien, Alain Duhamel, on marque une nouvelle petite pause musicale à bord de Wagon Livre. Je rappelle que vous signez Journal d'un observateur, disponible en librairie aux éditions de l'Observatoire. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la suite de ce 366e numéro de Wagon Livre sur Radion.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Alain Duhamel, vous avez rencontré Pompidou, Giscard d'Estaing, François Mitterrand, tous nos présidents de la République. Impressionnant,
oui.
Tout de même. Ou normal, certes, non, quand on est chroniqueur politique.
Normal, parce que je ne veux pas me pousser du col, mais enfin, tous les chroniqueurs politiques n'ont pas eu accès à autant de présidents, d'abord. Ça, malheureusement, c'est aussi lié à mon âge, qui maintenant commence à être un âge non seulement respectable, mais un peu trop avancé. Mais donc, il se trouve que j'ai probablement rencontré, pas seulement rencontré, très bien connu, plus de présidents que quiconque, sinon sans doute Michel Cotta et Jean-Pierre Elkabbach. Mais mon originalité, si j'ose dire, c'est que j'avais avec eux un type de relation un peu différent, dans la mesure où j'avais peut-être moins de familiarité que Jean-Pierre Elkabbach avec certains d'entre eux, moins de familiarité que Michel Cotta avec d'autres d'entre eux, pas les mêmes, mais que j'avais des rapports qui étaient plus, je dirais, de débats intellectuels et politiques que de recherche du scoop, de l'information ou de la quête pour décrocher une émission.
D'ailleurs, vous écrivez aussi, concernant les parcours journalistiques, « L'incarnation et la starisation ne m'attirent nullement, contrairement à nombre de mes homologues. » Un homme de l'ombre, vous ?
Non, je ne suis pas un homme de l'ombre, parce qu'il ne faut pas faire semblant d'être plus anonyme qu'on ne l'est, mais je ne recherche jamais le vedettariat, je ne vais jamais aux gens de cérémonie où on se fait remarquer, je ne me crois pas obligé de participer aux grands événements parisiens. J'y suis convié, mais je n'y vais jamais. Et le côté, le feu des projecteurs et la vedettisation, ça ne m'intéresse absolument pas. Je n'ai pas du tout envie, je n'ai pas, d'ailleurs, de toute façon, maintenant, ça serait trop tard si j'avais à repentir. Mais je n'ai jamais eu envie d'être une star ou une vedette. J'ai eu envie d'être respecté, j'ai eu envie peut-être d'être une référence intellectuelle, ou j'ai eu envie d'être une voix ou une plume quiconque, qui compte, mais certainement pas d'être celui sur lequel on se retourne dans la rue, celui qui distribue des autographes. J'ai honte de le dire, pour moi, écrire des autographes, ça fait partie des péchés que j'expie.
Est-ce que justement, aujourd'hui, en ce qui concerne l'information, est-ce que... Et vous l'écrivez, vous dites, moi j'avais le désir d'être didactique, de faire comprendre, d'analyser, d'apporter des analyses de la politique aux Français qui peut-être soient son paresseux ou qu'il est possible aussi que des éléments politiques nous échappent et que des spécialistes sont là pour les mettre au clair. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, les journalistes font sérieusement ce que vous avez fait pendant des années ? On a l'impression qu'il y a plus la recherche de la petite phrase, du buzz.
Alors, il ne faut évidemment pas généraliser.
Oui, mais je vous demande...
Il y a encore de bons journalistes. Mais ce qui est vrai, c'est que l'évolution des techniques de l'information a fabriqué des types de journalistes différents. Qu'avant, un chroniqueur ou un éditorialiste, en tout cas je ne dis pas ça de n'importe quel journaliste, en plus qu'il y a énormément de spécialités différentes dans le journalisme, mais un chroniqueur ou un éditorialiste, c'était quelqu'un qui devait avoir une certaine culture de fond, qui devait avoir une certaine plume, même si c'était de la presse audiovisuelle, il fallait une bonne plume, et qui devait avoir du recul et une réflexion personnelle. Aujourd'hui, les critères principaux sont plutôt d'essayer d'aller plus vite que le voisin, de se dépêcher d'avoir un avis avant même qu'on ne sache de quoi il s'agit, et de chercher à créer l'événement à tout prix, soit en commentant ce qui vient de se passer 30 secondes avant, même si on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, soit en déclenchant soi-même l'événement par des prises de position fracassantes et artificielles. Donc, je veux dire que beaucoup de journalistes paient l'évolution de la technologie.
Alain Duhamel, parlons alors des émissions télé auxquelles vous avez largement participé, donc Armes égales, donc de 1970 à 73. Là, j'avoue, j'ai pas connu. Alors, il y avait ensuite de 77 à 81 Cartes sur table. J'étais encore un peu jeune.
Il y en a eu entre, mais enfin, ce sont les plus marquantes, oui.
Il y a bien sûr le club de la presse sur Europe numéro 1, comme on disait à l'époque. Et puis alors moi, les grands souvenirs que j'ai de vous, c'est à partir de 82, l'heure de vérité, c'était sur Antenne 2. Alors il y avait François-Henri de Virieux, le marquis, c'est ça,
oui,
François-Henri de
le
Virieux.
Le marquis rose, parce que c'était un marquis social-démocrate extrêmement sympathique, on était d'ailleurs très amis. Et depuis longtemps, puisque je le connaissais depuis que j'avais 20 ans, parce qu'à l'époque, je faisais mes premières armes au Monde, et lui était le chroniqueur agricole au Monde. Et qui était l'héritier d'un superbe château du XIVe siècle, enfin d'une forteresse du XIVe siècle. Il avait d'ailleurs une très grande photo de cette forteresse dans son bureau, mais qui était un bon social-démocrate par ailleurs, donc c'était un personnage original.
Et puis dès 1984, ensuite, est apparu Albert Duroy.
Oui, absolument.
Alors, l'heure de vérité, j'insiste, parce que vous écrivez « L'heure de vérité est mon enfant ».
Oui, je dis ça parce que c'est la seule émission dont j'ai eu moi-même l'idée. C'est-à-dire que c'est Pierre Desgros, qui à l'époque donc dirigeait l'information de la chaîne, heureusement pour la chaîne, parce que ça a vraiment été quelqu'un qui a libéré des entraves. Pierre Desgros m'avait dit en 81 de réfléchir à un concept d'émission différent de ce qui s'était fait, c'est-à-dire pas simplement des duels, ou des débats, ou une meute de journalistes avec un agneau politique au milieu d'eux. Et donc j'avais cherché une idée, et j'avais fini par trouver cette idée, qui était que si, au lieu de mettre un invité en face de dizaines de journalistes, il était au contraire interrogé successivement par trois journalistes ayant des profils différents, des compétences différentes, ça créerait une émulation, une concurrence, un renouvellement, un rythme différent. Et c'est à partir de cette idée-là qu'on a mis sur pied, avec François-Henri de Virieux, L'heure de vérité, qui est l'émission politique qui, sous la même forme en tout cas, c'est-à-dire sans changer ni d'animateur, ni de présentation, ni de décor, a duré le plus longtemps de l'histoire de la télévision. Et c'est vrai qu'elle a à la fois accueilli tous les grands acteurs politiques de l'époque, c'était normal. Mais ce qui était intéressant, c'est aussi qu'on y a, puisqu'elle était d'abord mensuelle, puis hebdomadaire, donc on en avait une bonne quarantaine par an, ça nous a permis aussi de faire éclore une nouvelle génération politique. C'est là que sont nés sous les fonds baptismaux audiovisuels, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Ségolène Royal, François Bayrou et Jean-Marie Le Pen. Absolument. Jean-Marie Le Pen, politiquement, je ne dirais pas lui est né, puisqu'il avait été élu député dès 1956, donc sous la 4e République, mais est devenu une star politique dans cette émission, par cette émission.
Alors il y a aussi... Je suis allé un peu vite, mais il y a ce fameux débat du 10 mai 1974, qui est une date inoubliable, puisque c'est la première fois que les deux finalistes de l'élection présidentielle s'affrontent dans un duel politique.
Oui.
Ça, on oublie, ça fait un peu plus, de, un peu plus de 40 ans.
Ça, c'était un objectif que j'avais avec Michel Bassi, avec qui j'avais fait Armes égales. Donc Armes égales était un duel, donc on était un peu les spécialistes du duel à l'époque, surtout qu'il n'y avait pas beaucoup d'émissions politiques et il n'y avait surtout pas beaucoup de chaînes à l'époque. Hein. Quand on a fait Armes égales, il y avait deux chaînes en France, et en noir et blanc. Donc, les conditions étaient différentes. On avait été évidemment, comme toute notre génération, très impressionnés par le duel entre Kennedy et Nixon aux États-Unis pour la présidentielle, et on avait réfléchi depuis assez longtemps à l'hypothèse d'arriver à faire la même chose en France. Et il s'est trouvé que Georges Pompidou est mort impromptu. On savait qu'il était malade, mais personne n'imaginait, y compris ses médecins, qu'il allait mourir aussi brutalement. Et du coup, toutes les cartes ont été rebattues instantanément. Et Michel Bassi et moi, on s'est précipités, on a été voir les trois principaux candidats, hein, qui étaient Jacques Chaban-Delmas, François Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing, puis rapidement les deux, c'est-à-dire Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand, et on est arrivé à les convaincre de faire ce duel sans demander à notre hiérarchie. Après quoi, on a été voir notre hiérarchie en lui disant « voilà, ils sont d'accord ». Donc à partir du moment où ils étaient d'accord, de toute façon, il était évident que ça se ferait. Ça n'était pas très protocolaire comme démarche, mais ça a marché, ça a fonctionné, et... Valéry Giscard d'Estaing avait accepté tout de suite le débat parce qu'il était persuadé qu'il était le meilleur, ce qui d'ailleurs à l'époque était vrai. Et François Mitterrand était moins partant, mais avait l'esprit trop politique pour ne pas comprendre que s'il se dérobait, il aiderait à l'élection de Valéry Giscard d'Estaing. Donc on est arrivé à faire le premier débat. Bon, il se trouve, on a tiré au sort, il se trouve que c'est moi qui l'ai animé avec Jacqueline Baudrier.
Et vous aviez donc 34 ans.
Et j'avais 34 ans, voilà. Et c'était donc assez impressionnant, il faut bien le dire. Mais en même temps, notre rôle était tellement modeste comme animateur parce que ça faisait partie des conditions d'acceptation des deux candidats. Et comme on était demandeur de ce duel, ils pouvaient nous répondre ce qu'ils voulaient, évidemment. Donc ils en avaient usé beaucoup parce que François Mitterrand se méfiait terriblement de la télévision gaulliste. Et donc, il avait posé des conditions radicales. En gros, on était interdit de questions et interdit d'intervention. Bon, moi, j'étais chargé de présenter et puis de lancer des thèmes pour que les thèmes soient respectés et que les sujets qui devaient être traités le soient. Et puis, c'est tout. Bon, heureusement, après, les autres duels présidentiels ont permis aux journalistes d'avoir un rôle plus important. Mais disons qu'on a ouvert la voie.
En tout cas, bon, en 74, on peut dire que c'est Valéry Giscard d'Estaing qui a plutôt gagné le débat. Il y a eu ces formules, Monsieur Mitterrand, vous êtes l'homme du passé. Et puis, Monsieur Mitterrand, vous n'avez pas le monopole du cœur.
Oui, alors cette formule fait énormément parler dans l'histoire politique. En réalité, j'ai vérifié ça, dans la presse du lendemain, on n'en parle pas du tout. C'est typiquement une reconstruction ex post. Bon, mais peu importe, c'est dans l'histoire maintenant.
Alors, en revanche, en 81, 7 ans plus tard, François Mitterrand, lui, là, a gagné. Il a gagné son image. Il l'a travaillé. Oui. Il a gagné sur son image tout de même.
Oui. Et là, pour le coup, il y a quelque chose qui a vraiment joué un rôle. D'ailleurs, lui-même l'a proclamé ensuite. Hein. Qui est que la dernière émission qui était carte sur table, immédiatement avant l'élection, c'est-à-dire elle était en mars, l'élection était en avril, c'était la dernière. Et je lui ai posé la dernière question au moment où Jean-Pierre Elkabbach commençait à prendre congé. Je me suis dit, mais on n'a pas posé de questions sur la peine de mort. Il y avait des condamnés qui attendaient leur sort. Et donc, je lui ai demandé, alors qu'on commençait à prendre congé, je lui ai demandé si vous êtes élu président, est-ce que vous abolissez la peine de mort ? Bon, il avait réfléchi au sujet et il s'attendait à ce qu'il y ait une question. Je pense qu'il était même désemparé que la question n'ait pas été posée avant. Mais du coup, il s'est précipité, il a fait la réponse célèbre qu'on sait. Et alors ça, on a pu mesurer quand même que pour modifier son image, notamment auprès de la bourgeoisie libérale, qui avait été plutôt Giscard quand même. Mais ça lui a donné, disons, une stature qu'il n'avait pas auparavant. Ce jour-là, il est apparu comme autre chose que ce pourquoi il passait, d'ailleurs à tort à l'époque, mais il passait pour essentiellement un tacticien. Et là, il a pris ses risques, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, la majorité des Français, une majorité encore assez nette, était pour la peine de mort. Et donc, il a bravé ça. Mais en bravant ça, il a montré qu'il avait aussi des convictions. J'ai toujours pensé, d'ailleurs j'en ai parlé avec lui une fois, et ça s'est même assez mal passé en une occasion, j'ai toujours pensé qu'il y avait aussi un côté de repentance dans cette prise de position, parce que quand il était garde des Sceaux à la fin de la 4e République, il y avait eu pas mal d'exécutions de gens du FLN, et à ce moment-là, il n'avait pas d'état d'âme.
En tout cas, vous n'exécutez personne, il n'y a pas tellement...
Oui, ça n'est pas l'avis de tous les intéressés quand ils sont encore en vie. Certains, comme souvent dans ces cas-là, trouvent que je suis un peu désobligeant pour eux. Et surtout, mais ça c'est classique chez les politiques, voient très mal le fait que j'ai dit plus de bien de quelqu'un de leur génération que d'eux. Alors ça, c'est quelque chose qu'ils vivent toujours très très mal. Si je dis de l'un qu'il a vraiment telle et telle qualité, et si je déjeune avec l'autre de la même génération, je suis sûr qu'il se plaindra de la différence des traitements.
En tout cas, on retrouve tout votre parcours et toute la vie politique française, hein, de Pompidou jusqu'à Macron, enfin un tout petit peu. Jusqu'à l'arrivée d'Emmanuel Macron.
J'ai pas voulu aller plus loin en ce qui le concerne, d'abord parce que je me suis arrêté au moment où il était élu. Et puis ensuite, parce que je connais très bien la presse quand même, heureusement, au bout de 60 ans pratiquement, je savais que si j'écrivais 10 pages sur Macron, dans un livre de 350 pages, on ne m'interrogerait que sur Macron parce que c'était la nouveauté. Voilà. Donc je n'ai pas écrit ces 10 pages.
Merci Alain Duhamel d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc le titre de votre dernier ouvrage, Journal d'un observateur, disponible aux éditions de l'Observatoire. Ça peut être, me semble-t-il, un très bon cadeau à glisser sous le sapin pour Noël et se replonger dans l'histoire politique de notre 5e République, en passant par la France bouillonnante des années 60, les élections présidentielles, les événements de mai 68 ou encore l'Europe. Et puis bien sûr l'occasion de revisiter avec vous, Alain Duhamel, les émissions télévisées, les émissions politiques que vous avez très largement animées à Armes égales, Cartes sur table, L'heure de vérité ou encore sur Europe 1, le club de la presse. Je rappelle donc Journal d'un observateur de Alain Duhamel. On se quitte avec une pause musicale et on se retrouve juste après pour quelques informations pratiques. Je rappelle, c'est Wagon Livre sur Radion et puis vous pouvez retrouver, si vous avez manqué le début de notre entretien, vous pouvez retrouver cette émission via Internet sur le site d'archives de Wagon Livre en pianotant le www.yannickpetit.fr.
C'est là-bas, passé l'orage, le capitaine est mort dans ce long voyage. La terre est loin devant, je crois qu'elle m'attend. Dernier verre, je m'accroche au trottoir, dans une rue où l'alcool a noyé l'espoir. Un marin sans mémoire raconte son histoire. Il y a des jours, il y a des souvenirs, il y a des nuits, il vaut mieux en rire. Il y a des images, tu vois mourir les sirènes, passer des années-lumière, mourir. Sans mémoire
Je rappelle que c'est Alain Duhamel qui était aujourd'hui à bord de votre émission littéraire sur Radion. Alain Duhamel de l'Institut qui signe aux éditions de l'Observatoire, Journal d'un observateur. Et avant de nous séparer, je voudrais vous donner lecture des toutes dernières pages de l'ouvrage de notre invité, puisqu'elles sont consacrées à un portrait politique de notre président de la République, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a manifestement une conception autoritaire de son rôle que la Ve République facilite, mais dont il use sans complexe. Est-ce son talon d'Achille ? Il met en scène son autorité, il l'exerce sans la moindre timidité. Sans retenue, il décide, Édouard Philippe exécute. Il tranche et le Premier ministre arrondit. Les membres du gouvernement acceptent une discipline digne de la garde républicaine. Les députés d'En Marche peuvent débattre, mais non s'opposer. Il n'y a pas de frondeur chez les macroniens. Il n'y a pas non plus de familiarité avec la presse. C'est son seul aspect chiraquien. Même face au terrible Jean-Jacques Bourdin et Edwy Plenel, deux sans-culottes vindicatifs, il veut démontrer son autorité et d'ailleurs, il y parvient. Il bouscule les corps intermédiaires, défie les syndicats, cingle l'opposition. Ce président intellectuel n'est pas un président pusillanime. Il réfléchit, mais il agit. Il faut souhaiter qu'il réussisse, car s'il échoue, c'est l'heure du populisme qui risque fort de sonner. Populisme lyrique de Jean-Luc Mélenchon, populisme nationaliste de Marine Le Pen, populisme cynique de Laurent Wauquiez. L'économie internationale est instable et l'économie française est fragile. Les risques de guerre se multiplient au Moyen-Orient et le monde entier se réarme, Russie et Chine en tête, face à une Europe sans défense. L'Europe, justement, s'enlise. Hélas, la société française s'agite et parfois sans fièvre. Bref, ce monde est dangereux. Notre pays est vulnérable. On découvre de nouveau que l'histoire peut être tragique. La meilleure chance d'Emmanuel Macron est que le peuple le sent. Un démagogue au pouvoir serait dans ces conditions un drame. Mieux vaut 100 fois un réformateur audacieux, fût-il dominateur et sûr de lui. Ce sont les dernières pages du journal d'un observateur d'Alain Duhamel que vous avez pu entendre aujourd'hui sur Radion à bord de Wagon Livre. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre écoute et de votre fidélité. Excellent congé de fin de semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours à partir de 11h le samedi sur votre radio locale. Au revoir à toutes et à tous et merci encore.